Go, la revue presse JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer et YouTube.
C'est pas sexy Sarah ça?
C'est pas sexy choucroute Sarah ça?
Bonjour à toutes et tous, nous sommes le mercredi 16 mai 2018. Bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien 100% jeux vidéo. Quel bonheur de vous retrouver ce matin, j'espère vous donner panache et robustesse pour la journée. Mercredi, vous le savez, c'est le jour de la rubrique 100% Japon et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je pense que si vous aimez le jeu japonais et Taro Yoko en particulier, pense que la rubrique du jour va vous plaire. Bref, on va se mettre en jambes avec une petite brochette de news. Allez, c'est parti! Nintendo a effectué 15 nouveaux dépôts de marques, et oui, non pas 14, non pas 16, mais 15. C'est jeuxvideo.com qui nous parle de ça, et qui nous dit que donc le registre des marques au Japon nous révèle cette semaine donc que Nintendo a effectué pas moins de 15 récents dépôts, pouvant aiguiller sur les projets de l'entreprise. Comme nous le rapporte le site japonais Nintendo, Big N donc a déposé les noms listés que je vais vous donner là tout de suite. Alors on ne sait pas si ça va être pour du mobile, si ça va être pour de la Switch, on ne sait pas, c'est le grand flou, puisque est listé, accrochez-vous bien, Super Smash Bros, Star Fox, F-Zero, Pikmin, Yoshi's Island, Artstyle, Flipknot Studio, Shin and Punishment, The Legend Starfy, allez on va chercher loin, Nintendogs, Link's Crossbow Training, qui était vraiment pas terrible, Wii Fit nous revient, Wii Music, Wii Play, et l'indémodable Wii Sport. Oui, je défendrai toujours Wii Sport, c'est comme ça. Alors, des jeux qui sont déjà passés par Wii, par la DS, par d'autres machines Nintendo. Est-ce que c'est sur du mobile? Avec le nouveau président qui vient d'arriver, qui veut accélérer un peu le secteur du mobile, qui pour lui n'allait pas assez vite, on peut penser que ça va tendre vers ça. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas, on prend tout ça avec des grosses pincettes. En tout cas, c'est déposé, c'est là, chacun se fera son avis. Moi, je pense plutôt pour du mobile, hein, vraiment pour du bon smartphone des familles, mais je me trompe peut-être. Bref, on verra bien ce qui va nous tomber sur le coin de la caboche hein, dans les semaines à venir. La sortie du remaster de Zone of the Enders, The Second Runner, Mars, le hit avec des mechas de Hideo Kojima quand il était chez Konami, est calé pour le 6 septembre en Europe sur PS4. PC, alors sur PC ce sera via Steam, en tout cas c'est tombé, voilà, c'est gravé dans le marbre, plus de soucis. Donc au programme hein, de ce remaster, un affichage 4K de fou, différents modes dédiés au VR, alors plusieurs mini-jeux, plusieurs séquences hein, pour vous en mettre plein les mirettes, un mode de difficulté very easy pour ceux qui veulent vraiment profiter de l'histoire, et en plus elle était chouette, et de l'ambiance, parce qu'il fallait s'accrocher quand même hein, dans Zone of the Enders. La possibilité de personnaliser les commandes hein, pour accéder de manière un peu plus rapide, un peu plus instinctive aux armes secondaires, à diverses options. Bref, voilà, ça se modernise, mais le cœur du jeu, celui qui nous a tant plu à l'époque sur PlayStation 2, est toujours là. Vous voilà donc prévenus. Enfin, et avant de passer à la rubrique 100% Japon, qui sera assez longue ce matin à nouveau, vous savez que ces derniers temps, il y a eu la rumeur hein, d'un jeu Star Fox Grand Prix qui serait développé, tenez-vous bien, par Retro Studio. Et eh bien, Kotaku hein, a cité une source interne de chez Nintendo, ainsi que deux sources supplémentaires, ce qui nous fait quand même un nombre de sources maintenant qui commence à s'accumuler, si on compte celle d'Eurogamer aussi qui avait sorti l'info, donc d'un jeu de course hein, qui se situerait à mi-chemin entre F-Zero et Diddy Kong Racing, avec un mode aventure, des combats de boss, bref, j'espère que ce sera mieux que Diddy Kong Racing, puisque j'ai fait partie des, en tout cas des rares dans mon entourage hein, que je connaisse, qui avaient vraiment pas aimé le jeu, mais bon voilà, ça c'est un autre débat. Et donc ce serait Retro Studio qui bosserait là-dessus, donc sur un Star Fox Grand Prix. Est-ce que vous, ça vous sauce, hein, comme disent les jeunes? Est-ce que vous trouvez que c'est une rumeur qui n'a aucun fondement? Alors, je n'en ai pas parlé hier dans la revue de presse, puisque j'aime pas trop commenter les rumeurs dans l'émission. Sauf que là, ça commence sérieusement à s'accumuler. Bon, il semblerait qu'il y ait de grandes chances que le jeu existe. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire ça sur les réseaux sociaux. Commençons cette rubrique 100% Japon avec de bonnes grosses news qui nous viennent donc du pays du soleil levant, à commencer par cette info. Il sera bientôt possible de tâter du Mario Tennis Aces hein, avant sa sortie, puisque Nintendo, et ça c'est GameCult hein, qui nous apprend ça, a annoncé au Japon la mise en place d'un tournoi en ligne qui fera également office de démo. Ça va débuter début juin. Sauf surprise, hein, cette session de jeu devrait également concerner tous les autres territoires dans la mesure où cette version Switch bénéficiera normalement d'une sortie mondiale le 22 juin prochain. En tout cas, dès que j'ai des news là-dessus, comptez sur moi pour vous tenir au courant. Little Dragon's Café, vous savez le jeu tout mignon avec à sa tête Yasuhiro Wada, le créateur de l'immense licence Harvest Moon, sortira donc le 30 août prochain au Japon. Il sortira normalement également par chez nous cet été sur PS4, Nintendo Switch, hein, via Rising Star Games. De son côté, la saga Beyblade, et ça va faire plaisir à mon fiston, hein, la saga Beyblade Burst, hein, après plusieurs volets sur Nintendo 3DS, et ben s'apprête à tournoyer sur Nintendo Switch avec Beyblade Burst Battle Zero, et ça c'est prévu pour le 25 octobre prochain sur l'eShop au Japon, hein, au tarif de 6280 yens, ce qui nous fait à peu près 45 euros. La version physique proposera même une toupie Beyblade exclusive. Alors si certains ont des enfants parmi vous qui sont fans de Beyblade, j'imagine que si ça sort chez nous en France, ça risque de faire un sacré carnage. Et Square Enix, qu'est-ce qui nous fait le petit Square Enix? Eh bien il organise cette semaine un Kingdom Hearts 3 Invitation Premier Event, un événement hein, où les membres de la presse pourront jouer, pourront tâter du jeu pour la toute première fois. L'embargo sur cet événement sera levé le vendredi, hein, le vendredi qui vient à 6h, et c'est là que la presse pourra partager ses impressions sur le jeu. Alors 6h, je crois que c'est heure de Paris si je ne me trompe pas. Il est possible hein, que des informations supplémentaires comme une date de sortie enfin sortent également de l'événement. Je rappelle que Kingdom Hearts 3 qu'on attend depuis... on ne compte plus, hein, depuis le temps qu'on l'attend, est toujours calé pour 2018 hein, sur PS4, Xbox One, et Square Enix a réaffirmé hein, dans un rapport financier qui a été partagé la semaine dernière que vraiment, ça sortira en 2018, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises là-dessus. Donc, bien évidemment, cet événement, je vous tiendrai au courant de tout ce qui va se dire là-dedans. Enfin, Bandai Namco a annoncé que Taiko no Tatsujin, hein, vous savez le célèbre jeu de rythme dans lequel le joueur doit frapper avec des baguettes sur des percussions, vous savez que c'est né en arcade, il y en a eu sur des consoles domestiques, bref, et ben ça va débouler sur Nintendo Switch le 19 juillet 2018, cette année, et oui cette année, au prix de 6980 yens. Squid et Kirby seront jouables, vous aurez donc des musiques bien sûr de Splatoon 2, de Kirby Returns to Dream Land, et même des musiques de Super Mario Odyssey. Alors moi qui n'ai pas trop jeu rythmique, ça me donne presque envie d'y jouer, tellement les musiques de Mario Odyssey sont extraordinaires. Bref, et attention, pour les gros fans, un Dungeon en or est offert pour toute précommande. Et oui, ça, peut-être que 90% d'entre vous s'en moquent royalement, mais je suis sûr que les 10% qui restent frétillent comme des petites truites depuis que j'ai balancé l'info. Allez, on passe à la suite de cette rubrique 100% Japon. Attention les cocos, on s'accroche à son slip, je vais vous parler de Final Fantasy VII Remake. On a appris que Nobuo Uematsu, l'illustre compositeur historique de Final Fantasy, serait impliqué dans le projet. C'est lors hein, d'un événement absolument magnifique, rutilant champagne et trompette, hein, dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de Final Fantasy, que messieurs Kitase et Hamaguchi ont jacté un petit peu de ce remake tant attendu. Ces paroles hein, ont été rapportées par un magazine japonais, un magazine papier. Et c'est dans ce papier qu'on a pu quand même dénicher, hein, qu'il y a des petits malins qui m'ont traduit. Alors moi je vous traduis souvent des articles en anglais ou autre, mais enfin le japonais ça c'est hors de mes compétences bien sûr, mais enfin la magie d'internet étant là, quelqu'un l'a traduit en anglais, donc c'est très bien. Et donc l'une des premières infos que l'on a appris, c'est que Final Fantasy VII Remake sortirait d'ici 2023. Alors là ça fait très mal. Ça fait mal. ça fait mal un petit peu partout, je vous l'accorde. Ça à prendre avec des pincettes. Vous savez que le jeu est prévu pour être découpé en épisodes. Alors, est-ce que ce sera le jeu complet, c'est-à-dire l'ultime épisode qui sortirait en 2023, ou vraiment le premier épisode? Parce que si c'est ça, je pense que là, c'est même plus du foutage de gueule à ce niveau-là, c'est de la pantalonnade intergalactique. Bref, autre information, donc, c'est que Nobuo Uematsu, ça je vous le disais en introduction de cette news, donc va participer à ce remake. Alors on ne sait pas encore vraiment à quel niveau. Est-ce qu'il va arranger à nouveau ses morceaux mythiques? Est-ce qu'il va un petit peu chapeauter la bande son? on ne sait pas, vous savez que c'était le compositeur original, parce que je rappelle que Nobuo Uematsu a composé les bandes-sons des Final Fantasy du 1er au 9. Il était également présent sur le 10, mais pas seul, hein, bien sûr. Et né de son esprit brillant, c'est vrai, des tas de mélodies complètement mythiques. Donc on ne sait pas donc ce qui va vraiment se passer là-dessus, mais en tout cas, je pense que... Il y a deux choses. Je pense que Square Enix, hein, bon, ça c'est vraiment juste une opinion, hein, vraiment personnelle, je pense que Square Enix a besoin de communiquer sur le jeu. Si vraiment il va sortir si tardivement que ça, il faut rassurer les gens en donnant quand même des petits biscuits, rassurer les fans. Et puis dans un deuxième temps, le fait de rappeler des stars, hein, vraiment des piliers du Final Fantasy VII de l'époque sur ce remake, et ben voilà, ça aussi ça concourt un peu à rassurer un petit peu tout le monde. Et puis entre temps, ben, ça fait quelques belles news, la preuve, hein, j'en parle ce matin. D'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez, hein, sur le, vous savez, il y a le Twitter, hein, Atrevue de Presse, j'y vais tout coller, le Discord, bref, tous les liens sont dans la description de l'émission. J'aimerais savoir si, à force d'attendre ce remake d'FF7, est-ce que vous l'attendez encore? Est-ce que vous l'attendez encore vraiment avec fébrilité? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez peur que, si c'est un jeu que vous avez aimé à l'époque, vous avez peur qu'il soit dénaturé? Ou alors, est-ce que vous vous en tartinez royalement les miches? Je ne sais pas. Dites-moi tout ça sur les réseaux sociaux, ailleurs, en commentaire. Bref, ce ne sont pas les moyens qui manquent. J'aimerais vous parler d'un document, hein, qui est arrivé là il n'y a pas si longtemps que ça sur YouTube, qui s'appelle Hub and Flow, et c'est produit par Archipel. Archipel, on y trouve Anne Ferrero, vous savez, derrière Toko Toko, la célèbre émission qui suit des créateurs japonais, donc sur YouTube, une émission absolument fantastique, dont une sur Taro Yoko, le créateur des Nier et des Drakengard. J'en avais parlé maintes et maintes fois, et d'ailleurs je vous invite vraiment à aller voir cette émission absolument géniale. Donc ce document, Ebb and Flow, questionne plusieurs personnalités, hein, du jeu vidéo japonais, dont donc Taro Yoko, mais vous avez aussi Keiichiro Toyama, hein, le papa du premier Silent Hill, de Gravity Rush ou encore de Sirène, Katsura Ashino, hein, le papa de Persona 5, Toshihiro Nagoshi, qu'on ne présente plus, hein, Mister Yakuza, ou encore Monsieur Mizuguchi, derrière Rez et tant autres jeux de rythme musicaux absolument fantastiques. Donc ce documentaire n'est sous-titré qu'en anglais, voilà, ça il faut le savoir, c'est quand même à visionner d'urgence pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous ai malgré tout traduit les propos de Taro Yoko, et oui, le papa de l'extraordinaire Nier Automata. Vous savez que ce jeu m'a profondément marqué, et dès que je peux en parler, j'en remets une couche. C'est vrai que c'est un créateur passionnant. Je vous invite vivement, comme je vous l'avais déjà dit dans cette émission, hein, de vous ruer sur le livre de Third Edition, hein, qui revient sur la carrière absolument fantastique de ce créateur hors du commun. Et donc le créateur, hein, de la saga Nier, hein, nous explique dans ce document la différence entre les méthodes japonaises et occidentales. Donc il intervient à plusieurs reprises dans le doc, hein, qui fait une quarantaine de minutes. Et donc je vous ai traduit, rien que pour vous, mes amis, tous ces propos dans ce document. Voilà, comme ça, je ne grille pas non plus tous les propos qui sont donnés par tous ces créateurs de renom. Donc je vous invite après à aller voir ça sur YouTube directement. Mais en tout cas, pour les anglophobes, voilà ce que nous a dit Yoko Taro. Et Yoko Taro, donc, nous dit, ou Taro Yoko, il n'est plus juste de le dire dans ce sens-là. Ça aussi, on en a déjà maintes et maintes fois parlé. Bref, il nous dit qu'il fut un temps, hein, dans l'histoire des jeux vidéo japonais, où nous devions vendre des jeux sur le marché mondial. Alors nous avons imité les titres développés en Occident, nous dit le créateur de Nier Automata. Ces jeux donnaient vraiment la priorité à un aspect réaliste et à des images crédibles. Mais au Japon, à côté de ça, nous avions Gravity Rush et The Last Guardian qui ne se concentraient pas particulièrement sur l'aspect réaliste, mais plutôt sur une image globale, une atmosphère. Considérant les formes d'art, hein, comme les animés par exemple, ou même le ukiyo-e, alors je ne sais pas si je le prononce très très bien, ki-yo-e, hein, c'est un terme donc qui signifie « image du monde flottant », hein, c'est un mouvement artistique japonais qui date de l'époque Edo. Ça regroupait divers arts et notamment les estampes japonaises gravées sur bois. Alors je ne suis pas un spécialiste, hein, de l'histoire de l'art du Japon, ceux qui s'y connaissent mieux que moi ne manqueront pas de rectifier le tir, hein, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, n'hésitez pas. En tout cas, pour revenir, hein, sur ce que dit Taro Yoko, il dit que le peuple japonais ne s'est jamais vraiment concentré dans son histoire sur des représentations réalistes de l'être humain. Il dit « Je pense que nous préférons ce genre de monde surréaliste abstrait et personnellement je pense que c'est une grande différence entre le Japon et l'Occident. L'environnement, poursuit-il, de développement en Occident est plus systématique qu'au Japon. Chaque tâche est clairement assignée à quelqu'un. Le middleware est optimisé et tout le monde a appris à l'utiliser comme il se doit. Les level designers savent exactement ce qu'ils doivent faire. Tout ce processus est fait de manière à empêcher les problèmes ou éventuels accros de se produire. Du côté du Japon, on n'a pas réussi à créer ce genre d'environnement systématique et nous ne sommes encore qu'au stade de l'essai et de l'erreur. Il y aura des gens qui critiqueront cela. Mais ce qu'un directeur fait dans l'environnement avec ses équipes, c'est les encourager, encourager tout le personnel et utiliser de l'huile de coude à l'ancienne pour faire le travail. Je pense que c'est une partie de l'identité japonaise. Donc plutôt que de dire que les réalisateurs japonais ont beaucoup de pouvoir, qu'ils doivent être fiers et égoïstes, sinon les étapes finales ne seront jamais atteintes. En fin de compte, je pense que cet état d'esprit, malgré tout, c'est ce qui fait la différence entre les jeux créés au Japon et ceux créés en Occident. En particulier, il peut y avoir des problèmes avec les titres AAA, dont l'infrastructure de jeu doit être sans cesse optimisée. Ce n'est pas le cas pour les jeux japonais. Donc ici au Japon, je peux dire par exemple qu'on abandonne complètement les sauvegardes automatiques. Entre parenthèses, c'est ce qui se passe dans Nier Automata. Je rappelle, dans Nier Automata, il se passe au début du jeu un grand moment sans que vous puissiez sauvegarder. Si vous foirez le coup, vous revenez au début, ce qui avait surpris beaucoup de personnes à l'époque. Bref, il nous dit que si il avait proposé ça pour un titre AAA à l'étranger, donc le fait de supprimer les sauvegardes automatiques, tout le monde l'aurait regardé de travers et ça n'aurait pas été possible. Donc, pour conclure, Taro Yoko nous dit que d'un point de vue positif, on peut dire que nous avons ici au Japon plus de liberté dans notre travail. Alors, je tenais à vous retranscrire ces propos parce qu'ils peuvent paraître un petit peu idylliques, mais il y a deux choses. C'est qu'on sait qu'au Japon, effectivement, tout n'est pas rose non plus. Le crunch là-bas est aussi assez hardcore. Les conditions de travail sont pas toujours fabuleuses. Mais on sait malgré tout que le papa de Nier n'a pas la langue dans sa poche et balance parfois même des trucs qui pourraient... Je pense qu'ils doivent donner bien des diarrhées à des attachés de presse ou au service marketing. Donc je pense que les trois quarts de ce qu'il dit, il le pense sincèrement en tout cas. Et donc je tenais à vous retranscrire tout ça. J'ai vu ce document, il est absolument fabuleux. Alors je vais pas tout vous spoiler de ce qui se dit dedans, parce que je veux vraiment qu'on aille voir ce doc. Donc ça s'appelle Ebb and Flow, produit par Archipel. Bravo encore Archipel, bravo à Anne Ferrero qui font vraiment un travail absolument fantastique. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description de l'épisode et ça c'est à regarder d'urgence. Et si vraiment vous êtes hyper allergique à l'anglais, bah demandez à quelqu'un de vous le traduire, quelqu'un qui le comprend un peu mieux. Vraiment, c'est ce genre de vidéos, ce sont des perles rares, on les met pas assez en avant et ce sont des trésors. Donc foncez regarder ça et je pense que votre cœur et votre cerveau vous diront merci. Et voilà, c'est déjà terminé, je sais, c'est triste, mais on se retrouve dès demain, avant 7h, sur tous les flux habituels, pour une nouvelle édition de la revue de presse JV. Je vous souhaite bon courage pour toute la journée, n'hésitez pas à partager un maximum, à en parler autour de vous si vous aimez l'émission. Bien sûr, n'oubliez pas que toutes les éditions sont disponibles H24, 7 jours sur 7, sur tous les flux habituels. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis donc à demain. Allez, bye bye.